Sous le paysage. Épisode 3. Les pratiques, politiques et représentations. Enregistré à la Série dans la bergerie de la vallée de Fabrice Hibert en juillet 2024. En présence de Jean-Christophe Bailly, Maxime Olivier, Anne Simon et Gilbert Tsaille. Sur l'invitation de Maxime Rovert.
Aujourd'hui, nous avons prévu de réfléchir aux pratiques qui font le paysage. Avec nous, Fabrice Hibert, qui a construit, fabriqué, fait pousser en artiste le paysage dans lequel nous sommes.
En fait, pour moi, le paysage, c'est quelque chose dans lequel je vais.
Fabrice Hibert.
C'est pas quelque chose que je vois seulement. Et ce paysage que j'ai construit, enfin qui existait déjà en fait, que j'ai un peu transformé, c'était le paysage de mon enfance où j'ai vu l'eau qui coulait, j'ai vu les arbres pousser. Il y avait très, enfin quand j'étais gamin, il y avait très très peu de, c'était un peu aride, c'était pas très agréable. Il y avait peu d'arbres, tout ça. Il y avait un petit bois de l'autre côté de la rivière qui est toujours là d'ailleurs et que je voyais jamais bouger. C'est un petit bois qui n'a jamais bougé depuis 50 ans. Ça, comme il n'y a personne n'y va, personne n'en sort quelque chose, donc il ne bouge plus. Et puis en fait, petit à petit, j'ai voulu, comme ce paysage, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis dit, tiens, je vais le protéger, parce que vu de l'agriculture industrielle qu'il y avait autour, je me suis dit, c'est le moment de pouvoir, je peux en faire quelque chose. Et à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire de ces dizaines d'hectares? Et j'ai décidé de faire une forêt. Parce qu'une forêt, on y va dans une forêt, on se promène dans une forêt, on ne se promène pas dans des champs. Et donc, voilà, donc comment on fait une forêt? Donc, j'ai planté des arbres, j'ai essayé avec mon père de planter des arbres, puis après, comme je le faisais depuis gamin, je prenais des graines et je les semais. Je me suis dit, on doit pouvoir semer les graines, puisque les graines ou les noyaux des fruits, parce que ça doit devenir des arbres, forcément. Et c'est devenu des arbres, comme ça. Et en fait, très vite, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais en fait, on ne voit pas le paysage ici. On y est. Et on ne voit pas une image du paysage, on y passe en permanence. Et je pense que c'est une notion aussi que j'aimerais bien être sûr que ça se comprenne, c'est que, en fait, le paysage, ce n'est pas seulement une forme extérieure à nous, mais on y est en permanence, on y rentre en permanence. Et je pense que faire des chemins dans lesquels on apprend des choses, c'est comme quand on est dans un musée, vous savez, dans un musée, on est devant un tableau, mais après, on passe un autre tableau. Et en fait, on passe d'un tableau à l'autre. On crée une histoire, un chemin. Et dans ce chemin-là, on apprend des choses. Et au départ, quand j'avais créé cette forêt ici, dans cette vallée, en fait, l'idée, c'était de créer un paysage qu'on puisse manger. Qu'on puisse se nourrir du paysage avec tous les fruits, les légumes, les coquilles, toutes les choses, les champignons, parce qu'il y en a beaucoup maintenant de champignons, et toutes ces choses-là puissent être un... Le paysage, c'est là où on est. Et en fait, si pendant très longtemps le paysage était quelque chose qu'on voyait, eh bien, je pense que c'est peut-être bien justement avec ce projet-là et ces projets qu'on met en place, c'est de montrer que le paysage, c'est là où on va.
Le paysage, c'est par définition de la coexistence.
Oui.
Où est-ce que l'art intervient justement dans cette conception du paysage?
L'art intervient là où en fait ça permet de le faire en fait, d'imaginer d'autres possibilités. Moi, quand je crée en fait, j'imagine d'ouvrir des possibles, d'être dans un endroit où on fait quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre, puis finalement c'est décalé. Tu vois, quand je fais mon premier tableau, c'est un mètre carré de rouge à lèvres, parce que je veux mesurer la beauté. Donc la beauté, hop, pourquoi pas le rouge à lèvres. Puis c'est une matière, c'est de l'huile et tout ça. Et en fait, quand tu fais le mètre carré de rouge à lèvres, c'est un truc qui ne sèche jamais. Ça décale, ça donne un objet hybride. Ma seconde œuvre importante, c'était, j'avais dessiné la lune. Je m'étais installé sous le grand chêne qui est en bas de la vallée, justement, quand j'avais 19 ans. Et j'avais dessiné toute la nuit, toute la lune qui montait dans le ciel et qui descendait avec des fusains. Et je faisais des expériences, je regardais le papier, je regardais pas le papier, je regardais la lune, enfin tout ça. Et ça fait 150 dessins. Voilà, je les ai fait les 150 dessins, mais comment les montrer après? Et comment montrer ça? Et donc tout ça, ça fait des objets qui sont a priori des dessins, mais qui finalement ne peuvent pas être montrés, ou difficilement, ça fait 200 mètres de long, donc c'est compliqué. Et donc toutes ces choses, en fait, ça fait des choses. Donc quand tu crées un paysage, quand tu crées une forêt, quand tu sèmes une forêt, eh bien, tout d'un coup, tu la sèmes, tu l'enrichis, tu fais en sorte que qu'elle peut résister. Qu'elle a pu résister au temps. Quand j'ai semé les graines, j'ai voulu que le spectre des graines soit très très large pour si le soleil arrive trop fort ou si la pluie ou le vent arrive trop fort, mais qu'il y ait des possibilités de forêt, toutes les possibilités de forêt ici. Donc tout d'un coup, ça fait une forêt un peu étrange, bizarre, enfin avec des choses qui sont inhabituelles. Et puis il y avait une autre chose aussi que j'ai fait très 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 vite, c'est de chercher aussi dans d'autres parties du monde. Des endroits où je peux faire la même chose. C'est-à-dire que la forêt, j'ai cherché avec des météorologues, et j'ai cherché des endroits dans le monde qui avaient la même moyenne météorologique. Donc, j'en ai trouvé dans le sud du Chili, dans le nord de la Crimée, en Corée, et puis aux États-Unis. Et ces endroits-là, je suis allé, et en fait, j'ai vu des lieux qui avaient presque la même météorologie qu'ici. Et je me suis dit, s'il y a un problème, si tout d'un coup le Gulf Stream s'arrête ici, c'est en train de se faire, eh ben ça va peut-être changer trop la température et j'aurai une autre forêt pareille ailleurs. Et donc, mais en fait, petit à petit, je me suis dit, c'est peut-être pas ça qu'il faut développer, mais développer l'idée qu'on est dans une forêt globale. Aller carrément, y aller carrément, et que, en fait, ces arbres qui sont des racines de la vie en sous-sol, dans l'air, soient partout et qu'il faut le révéler en permanence.
C'est une forêt signée ou c'est une forêt globale? Elle est signée, Fabrice Hiver?
Elle est très floue. elle a des petits partout, en fait. Et c'est une forêt signée, non. C'est plutôt c'est un paysage pour réinventer le paysage, je pense. C'est un truc pour mouler le mot paysage différemment. Donc c'est comme ce que je fais dans des tableaux où je parle de mutation, où je parle de pollution. En fait, la pollution, quand ma seconde expo s'appelle Pollution, en fait, je voulais parler des pollutions comme une chose qu'on devait accepter, qu'on devait avaler, et non pas qu'on devait rejeter. Il fallait en parler. Ou comme la mutation, c'était une chose qu'il fallait augmenter. On augmentait, parce qu'on mute en permanence, on n'arrête pas de muter, parce que d'abord, on se mélange. Et donc, les mutations, c'est des choses en plus. Et en fait, quand on fait ce paysage, c'est une chose en plus. Et en fait, ça permet de parler avec les voisins, de parler de ce projet-là, d'en faire quelque chose et d'imaginer que la Terre est en évolution. Parce qu'une œuvre n'est jamais définitive, elle n'est pas là une seule fois, elle est là. Une fois, puis deux fois, trois fois, quatre fois. Les œuvres d'une certaine époque, eh ben on les relie maintenant différemment. Donc, un paysage qui était une forêt, ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai commencé à la faire, cette forêt, c'est que tout d'un coup, c'est devenu... en fait, ça cachait le paysage qu'il y avait avant. Tout d'un coup, il y a des arbres qui sont plantés devant un paysage ouvert. Et donc, après, je me suis dit, peut-être qu'il faut faire des chemins. Ouais, en fait, elle est en perpétuelle évolution. Et puis maintenant, je parle du sous-sol. À un moment donné, je me suis rendu compte que ces bois dont je parlais tout à l'heure, des petits bois fermés qui s'autonomisaient comme ça, en fait, une forêt, si on n'y va pas et on s'en nourrit pas ou on n'enlève pas des choses, eh ben, elle va mourir. Elle va fabriquer juste ce dont elle a besoin pour faire pour absorber ses pollutions, ses pourritures. Donc, en fait, elle ne donne plus rien. Si on ne va pas la voir, elle ne va rien donner. Donc, si on n'enlève pas quelque chose, elle va pas refabriquer quelque chose pour vous. Donc, c'est un échange en permanence. C'est un échange qui va par les déchets, par les choses qu'on enlève, enfin, tout ça. Et puis, alors, j'ai appris aussi, en faisant ça, que le déchet dans une forêt, ça n'existe pas. C'est des choses qui, en permanence, voilà. Et donc, ça pose des questions sur le déchet, sur nos déchets. Voilà, donc, c'est, en permanence, c'est une œuvre... C'est une œuvre qui est vivante, super vivante. C'est pas une œuvre finie du tout. Et ça, j'adore.
Moi, j'arrive toujours avec mes tensions personnelles concernant l'écologie.
Maxime Olivier.
Là, aujourd'hui, j'arrive avec cette tension sur le rapport au sauvage, puisque dans les milieux écologistes, desquels je viens, il y a aussi un espèce de rapport idéalisé un peu au sauvage et à cette espèce de non-intervention. Dans le wilderness, qui est vraiment le paysage qu'on n'aurait pas touché, où il n'y aurait pas eu d'intervention de l'homme. Et du coup, je me pose la question, parce que tu as dit cette phrase, Maxime, de le paysage, c'est toujours un paysage dans lequel on est, finalement. Et je me pose la question de comment est-ce qu'on... est-ce qu'il n'y a pas aussi chez toi un endroit, je ne sais pas comment est-ce que tu as... quand tu as interagi avec cette forêt, mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu n'as pas voulu laisser des espaces dans lesquels tu voulais absolument rien toucher, ne pas intervenir? Ou est-ce que très vite tu t'es dit, en fait, c'est une vision utopique du sauvage, en fait, ça n'existe pas, les endroits dans lesquels il n'y a pas d'intervention de l'espèce humaine, ou du moins ici, quoi?
Et ben, en fait, j'ai parlé, il y a deux petits bois qui sont où on n'y va pas. On n'y est jamais allé. Il y a deux endroits que je connais, que personne... voilà. Et on n'est jamais allé. Moi, je les laisse comme ça pour l'instant. Mais je pense que je ne suis pas là tous les jours. Donc, il y a forcément des gens qui sont passés. Et je pense que c'est... pour avoir des endroits sans rien, eh ben, il faut faire des murs autour. Et je ne suis pas sûr que... Tu vois, tu peux avoir des endroits sans rien dans des villes. Moi, je pense que si on veut vivre, respirer, choses comme ça, eh ben, il faut apprendre à trouver son, à accéder à son oxygène, accéder à sa nourriture. Et c'est pour ça que je fais cette forêt qu'on puisse manger, parce que d'abord, elle va fabriquer notre oxygène avec, avec la chlorophylle, elle va fabriquer la nourriture, les animaux qui sont là, les champignons et tout ça, on se nourrit tout ça.
Puis il me semble que tu exprimes un point de vue d'agriculteur aussi quand tu parles comme ça. C'est-à-dire que tu attends de ce paysage-là qu'il te donne quelque chose. Tu veux rentrer dans un échange.
Oui, mais en plus, il faut qu'on mange aussi. Il faut qu'on mange et puis il faut apprendre. Moi, je pense que c'est important d'apprendre à fabriquer notre nourriture. Ça fait partie de nos choses. Et puis peut-être aussi que en fait, c'est peut-être aussi un élément important que notre corps puisse se transformer avec le végétal et non pas avec le médicament. Voilà.
Je voudrais vous lire un tout petit extrait
Gilbert Tsai.
D'un texte d'André-Marcel Dans, tiré du « Dit des vrais hommes ». Une anecdote vous permettra de mieux comprendre. J'ai été le témoin, un jour, de la réponse faite par un chef indien à l'observation d'un agronome qui lui rendait visite et selon qui il aurait été plus rationnel de grouper les espèces dans la chakra. L'agronome demanda donc à l'Indien pourquoi il maintenait un tel désordre dans sa plantation. Savez-vous ce que répondit l'Indien ? Dans la forêt, vois-tu que tous les cèdres sont groupés avec les cèdres, les caobas avec les caobas ? Non, ils sont disséminés ici et là, mêlés aux autres espèces. Ainsi sont les plantes dans ma chakra. Je ne sais trop comment l'agronome prit la réponse de l'Indien. Peut-être lui parut-elle témoigner une fois de plus de l'incurable infantilisme des sauvages. Pour moi, ce fut la révélation d'une vérité qui n'a cessé de se raffermir à mes yeux depuis lors et qui témoigne une fois de plus de la rigueur de la pensée indienne.
Je pense que cet extrait donc de
Jean-Christophe Bailly,
le livre d'André-Marcel Dans, qui est hélas introuvable aujourd'hui, c'était un ethnologue belge qui est mort maintenant. Et ce qu'il raconte à propos des Indiens, justement, ça montre le caractère absurdement tranché de l'opposition entre sauvage et disons, inviolé, comme on dit, et cultiver, et que simplement cultiver, c'est pas automatiquement la culture, l'agriculture, ou même la sylviculture telle qu'on la pratique massivement, à la façon caricaturalement occidentale, et qu'il y a mille et une autres manières. Il y a la façon dont a parlé Fabrice, il y a la façon dont faisaient les Indiens, avec, disons, en ce qui concerne la forêt, puisque c'est le paysage qui est devenu dominant ici, cette chose qui est quand même extraordinaire, qui est l'existence même du végétal. C'est-à-dire que moi, je le raconte comme des points de suture entre la terre et le ciel. Et c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre sans la lumière et ils ne peuvent pas vivre sans l'absence de lumière, le sous-sol. Et c'est un échange permanent, c'est un usinage permanent, même pendant les dormances, où on sait bien avec la chlorophylle, etc., ce que la lumière et les sels minéraux n'arrêtent pas d'échanger et qui produit cette extraordinaire variété. Et ce qu'on peut redouter, c'est les endroits justement où cet usinage, on le force à devenir, par les hypothèses d'hyper-rendement et de choses comme ça, on le lamine en fait, et en plus on détruit aussi tout ce qu'il y a de nourricier et de vivant dans le sol. On n'arrive pas encore à détruire complètement le ciel, mais ça va venir sans doute. Et donc ce caractère assez miraculeux du végétal, en fait, c'est ce qui assure la vie. C'est ce qui assure la vie, et même des choses qui ne sont pas du tout d'allure végétale, comme le charbon, qui est un peu le symbole de la grande époque industrielle. Le charbon, c'est du végétal. Du végétal d'il y a des millions d'années, mais c'est des plantes inconnues de nous qui ont perçu la lumière, qui se sont lentement décomposées et qui ont formé ça. Et ainsi de suite. Donc, comment, et quand on dit que le paysage se transforme, c'est vraiment un point beaucoup plus frappant que ce que nous donne ici dans les pays tempérés le spectacle des saisons qui se succèdent, avec les feuilles qui tombent et tout ça. C'est en ce moment, sous nos pieds, ça bouge. C'est ça, même si on ne le voit pas. Et heureusement qu'il y a le ciel qui renseigne en permanence les hommes sur le change permanent des formes et des états de forme. Mais donc les pratiques de paysage, pour revenir au sujet, évidemment, ce qu'on attendrait d'elles, c'est qu'elles soient conscientes de cette chose assez miraculeuse qu'est le vivant. Puisque à l'échelle de l'univers, il y a cette toute petite couche qui rend la vie possible, que celle de l'atmosphère, 10 kilomètres, 10 000 mètres. Et puis la couche supérieure de la lithosphère, avec la Terre, etc. C'est vraiment infime. Si comparé à une orange, c'est vraiment même pas la peau de l'orange, moins que ça. Quand on se représente ça, il y a un vertige en plus. C'est-à-dire on est au bord du vide, on est ou dans le vide, suspendu. Et heureusement, ce vide, de lui-même, il est devenu cette espèce de jardin possible. Et ce qui est en jeu aujourd'hui dans les pratiques de paysage, c'est justement où on conserve ce jardin, qui est à mon avis cultivé, c'est pas le problème, mais où on le détruit. Voilà, c'est ça le terrible enjeu.
Je pense au projet de Francis Allais actuellement, qui essaye de recréer une forêt primaire, donc qui essaye de trouver un grand espace et laisser pousser une forêt primaire, retrouver ce qui prendra des années.
En fait, l'idée, c'est quand même de faire qu'il faut développer l'éducation des voisins par rapport à ça, parce que ça serait un espace ouvert. Donc il faut vraiment ça. Donc vous imaginez bien que même un animal, il va pouvoir rentrer, donc il va ramener des informations et tout ça. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Donc c'est une chose qui peut aussi avoir une sorte de à double tranchant, qui peut être aussi lié. Ça peut être un bâton pour très très politique pour absorber l'idée de l'écologie, alors que c'est encore autre chose dont il faut parler.
Oui, alors je veux bien rebondir justement sur cette question du politique, de ce qui fait
Anne Simon
qu'on peut vivre à plusieurs dans un espace et partager parfois des paysages sur lesquels on n'est pas tous d'accord. Tu disais tout à l'heure, Fabrice, on y est, et moi je dirais on en est. Ce que tu disais finalement, c'est pas qu'on est dans un lieu, mais c'est qu'on en est du paysage, qu'on le veuille ou non. On peut le subir quand le paysage, c'est celui d'une décharge gigantesque, ou on peut au contraire en jouir. C'est ce qu'on fait ici. Et c'est une très grande chance, qui est une chance politique aussi. Et voilà, moi, j'ai envie de revenir un petit peu aux mots. Je pensais, tu es fils d'agriculteur, paysan, on va dire, pagous. Dans le paysage, on entend le pays, le pagous qu'a donné le paysan, qu'a donné un bout de territoire. Donc territoire, on peut aussi penser à ceux des animaux, par exemple, ou de ces végétaux hein, qui ne cessent d'avancer, de reculer et d'essayer de se créer un espace. Et puis, bien sûr, il y a la page. Donc, tout ça, ce sont des termes qui sont liés. Et j'ai envie aussi de revenir sur un autre mot. On a parlé de sauvage, salvage, ce qui serait inviolé, etc. Dans ta pratique, j'ai vraiment l'impression que tu es à la lisière entre planter et semer, t'attacher à ce qui apparaît, à ce qui jaillit et ce que tu vas en faire, et en faire de façon sensible, intelligente, onirique, etc. Dans cette histoire de culture, il y a le verbe latin colere, colere qui veut dire rendre un culte. Donc j'aime bien cette idée d'honorer et d'honorer parfois des controverses, des oppositions. Tu as parlé de voisinage, on a parlé de la forêt primaire de Francis Allais avec tout ce que ça peut charrier idéologiquement. Des deux côtés, je dirais, de la part de gens qui ont besoin de cet espace-là, et puis cette forêt dont on a envie que sur 1000 ans, elle puisse se développer. Et cette histoire de politique, elle me mène aussi à un livre dont on doit souvent te parler. Et ce livre, c'est « L'homme qui plantait des arbres », qui est devenu une sorte de manifeste écologique moralisant, bien pensant, qu'on distribue à tous les enfants des classes de France, de Navarre et peut-être d'ailleurs. Et c'est l'histoire d'un homme, Éléazar Bouffier, qui décide de replanter une montagne qui a été polluée, désertifiée, etc. Et il a bien de la chance, ce type, parce que comme il est dans sa montagne à semer des arbres plus qu'à les planter, un petit peu comme Obélix, la guerre de 14-18, ça ne le touche pas. 39-45 non plus, c'est explicitement dit, il est passé à côté de ces guerres. Et moi je me dis souvent, c'est dommage, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les opposants, ils auraient dû aller dans les montagnes des arbouffiers pour échapper à l'histoire. Et il y a dans une certaine écologie qui reprend ce texte de Giono, alors qu'il y a d'autres textes de Giono qui sont éminemment politiques, notamment ceux d'après-guerre, ou comme Deux cavaliers de l'orage, par exemple, ou Un roi sans divertissement, qui sont des œuvres de la fin, qui ont été rédigées ou publiées, selon les cas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où là, justement, il est beaucoup plus politique. Donc, il y a dans ce manifeste quelque chose d'extrêmement gênant, qui est que se réfugier dans la nature, ce serait sortir de l'histoire. Et c'est un mythe délétère, en réalité. Et c'est pour ça que je suis pour une écologie sociale. Et c'est une pratique aussi du paysage que de le faire ainsi, il me semble.
En fait, il y a un mot en plus dans paysage, c'est presque sage. J'aime beaucoup ce mot-là en plus. Parce qu'en fait, on en parle... Il y a une sorte de sagesse aussi dans la confection d'un paysage. Il y a une sorte de parler de toute cette sociabilité, enfin, tous ces échanges qu'il y a dans la forêt. Mais la forêt, c'est pas seulement que des arbres aussi, c'est quelquefois beaucoup de plantes différentes. C'est beaucoup, beaucoup de plantes. Et puis après, il y a ce que j'ai découvert en faisant cette forêt ici, c'est qu'il y a une agriculture qui se met en place. Donc, parce qu'il y a des fruits qui tombent, il y a du bois qui tombe, il y a toujours des chutes de bois. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça? Bon, on peut en enlever, mais on peut le garder, on peut le laisser vivre sa vie sauvagement, mais on peut aussi s'en occuper, puis en vivre aussi. Et donc, on crée une nouvelle agriculture. Et c'est tout ça aussi qui m'intéresse dans une œuvre qui n'est pas finie, c'est qu'elle elle donne plein de nouveaux comportements, c'est ça. Et voilà, c'est très riche, tout ça, ouais, bien sûr.
Si on prend acte de l'idée de jardin planétaire, tel que l'a défini Gilles Clément, mais ça va bien au-delà de lui, ça veut dire qu'il n'y a pas que la forêt quand même. Il y a le désert, il y a les rivages, il y a les champs, il y a les prés, et puis il y a les zones où ça ne peut pas pousser. C'est-à-dire la montagne à partir d'une certaine altitude et les régions polaires, hein, avec des problématiques complètement différentes. Mais si on prend les régions polaires, par exemple, il y a cette particularité qui a été très très bien racontée par cette ethnographe qui s'appelle Anastasia Martin, quand elle a son livre sur l'Alaska, où elle raconte des expéditions des colos californiens qui viennent expliquer aux Indiens, aux Inuits, aux gens de l'Alaska, qu'il ne faut pas manger de viande dans des endroits où il y a rien, où rien ne pousse. Hein. Et il y a cette phrase merveilleuse qui est racontée, c'est dans un livre de Descola qui cite quelqu'un qui a dit, je crois que c'est Amundsen, enfin un des grands explorateurs de l'Arctique, il lui dit, le drame de l'existence, c'est qu'il n'y a rien d'autre pour se nourrir que des esprits. On est obligé de tuer des esprits pour manger. Et c'est vrai, vous pouvez toujours essayer de mettre même des endives dans la, dans la banquise, ça ne vient pas. Donc il n'y a que des phoques, tant pis pour Brigitte Bardot, il n'y a que des phoques à manger, ou des poissons, etc. etc. Mais la grande différence, c'est que ce n'est pas fait n'importe comment, ce n'est pas fait ni à la mitrailleuse, ni à la dynamite, c'est avec non seulement des techniques ancestrales qui épousent le corps du pays tel qu'il est, avec sa neige, avec tous les problèmes actuels de la fonte, de tout ça. Mais c'est aussi que c'est ritualisé. C'est-à-dire que la notion là, avec le monde animal, elle est exactement la même que ce qui était dans la citation d'André Marcel Dans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intervient avec la nature, où on prélève sur la nature, eh ben, il faut faire un contrat avec elle. Alors évidemment, ça passe par des tas de divinités, de choses comme ça, mais ce n'est pas tant des divinités incarnées que des formes de la nature avec lesquelles il faut s'entendre. À partir du moment où on prélève un oiseau, un phoque, un poisson, etc., eh ben, il faut non pas s'en excuser, mais expliquer à ceux qu'on prélève qu'on est dans le cadre d'une relation instituée. Hein. Et par exemple, Nastassia Martin, elle raconte cet épisode absolument incroyable c'est des gens riches qui s'amusent à aller pêcher en Alaska, et comme ils sont écolos, ils pêchent les poissons et ils les relâchent. Et ce que disent les gens des villages, les autochtones, ils disent « mais que vont penser les poissons ?» C'est-à-dire, est complètement renversée la logique de l'habitation. Et c'est ça qui est en cause. C'est-à-dire que toute pratique paysagère doit maintenir une cohabitation possible et non pas, voilà, etc.
Finalement, le paysage, c'est un terrain d'interaction très complexe dans lequel il y a des interactions, je dirais, adaptées et des interactions qui sont plus prédatrices, c'est-à-dire qui détruisent d'autres interactions. L'une de ces interactions possibles, c'est quand même la représentation. C'est-à-dire, c'est quand même l'un des gestes artistiques qui consiste, au-delà d'être paysage ou de faire partie du paysage, de malgré tout le restituer une nouvelle fois, d'une autre manière. Où est-ce que se situe, selon vous, ce geste de représenter le paysage ?
Alors, il y a le représenter et aussi le représenter, le transmettre aussi. Parce qu'en fait, il y a aussi une idée de fabriquer le paysage. Et il y a le représenter, ça on le fait, il y a plein de gens qui le font, moi je le fais aussi, je fais des paysages, même biographiques quelquefois. Et en fait, l'idée dans la transmission, c'est de, ce que j'expérimente un petit peu maintenant, c'est d'imaginer que d'autres gens peuvent créer des paysages avec juste les graines. Parce que par exemple, j'ai découvert ça en faisant cette forêt ici, c'est comment avoir accès aux graines. On n'a pas, en fait, on plante des arbres. Vous avez entendu parler des gens qui sèment des arbres ? Non. Et en fait, l'accès aux plantes est déjà, c'est très réglementé, il y a des pépiniéristes, il y a tout ce qu'il faut et tout ça. Et l'accès aux graines, c'est impossible. Ça n'existe pas. Il n'y a que très peu d'organismes qui revendent des graines. Parce que les graines, il y a des réglementations internationales pour la diffusion des graines. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ces graines-là, c'est des petites choses qui sont des bombes de vie. Des bombes de vie qui sont très, très, très virulentes, parce qu'elles peuvent s'exposer partout. Et donc, l'idée, petit à petit, c'est de créer des réseaux de gens qui échangent les graines, ce qui existe déjà dans les pépinières. Mais je pense que les gens peuvent avoir accès. Moi, ce que je fais souvent dans mes expositions, ben, c'est que je fais des petits sacs de graines de la vallée et que je donne. Je les donne. Et hop. Et en fait, ces sacs de graines, en fait, après, il y a des gens qui appellent et qui disent « Ah, ça y est, j'ai une forêt de Fabrice Hibert. » C'est 2 mètres carrés où ils ont mis des graines, puis du coup, il y a plein d'arbres qui poussent. Voilà. Et en fait, tout ça, ça crée des situations, des comportements qui font prendre conscience de cette possibilité-là, cette pouvoir-là qu'on a de faire vivre des choses et de peut-être s'en nourrir.
Donc, représenter, c'est transmettre, c'est s'aimer.
C'est comme de faire une œuvre, représenter quelque chose, par exemple. Eh ben, on sème quelque chose. on sème quelque chose sur un mur, sur un objet, tout ça, et puis ça fait penser à quelque chose, ça fait penser à nos comportements, à la représentation de quelque chose, ou à un métier peut-être, pour ça, un comportement à avoir pour le futur. Pour les gamins, par exemple, c'est génial de voir des choses en train de se construire dans un atelier, parce que tout d'un coup, ils ont un métier qui s'ouvre. Ils ont presque quelquefois un mot sur peut-être un truc qu'ils ont en eux et qu'ils n'osent pas dire, qu'ils ne savent pas. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, quand j'ai vu la première fois des œuvres au Sable d'Olonne et puis après à Beaubourg, à l'ouverture de Beaubourg, je voyais des trucs de José Ibáñez, les pots comme ça. J'avais 15 ans, 16 ans, j'étais fasciné par ça, et les éponges de Yves Klein. Et je ne savais pas comment dire à mes copains et mes copines qu'est-ce que c'était. Je n'avais pas les mots. Et en fait, j'ai dit, ah, mais vous comprenez pas, mais c'est pas possible, vous comprenez pas, c'est dingue ce truc. Et puis, je sentais quelque chose. Et en fait, ça, c'est des choses qu'il faut en permanence, la transmission, c'est ce qui manque beaucoup.
Oui, je voudrais reparler un peu de ce spectacle La Main Verte que j'avais monté, qui est justement ce désir de transmission. Comment, dans une banlieue parisienne au milieu des HLM, on peut transmettre cette idée de paysage? Donc il y a eu le recueil d'une quantité de textes parlant du paysage et du jardin, et puis cette commande donc faite à Gilles Clément de créer un jardin dans le lieu le plus improbable possible, c'est-à-dire une salle noire, une scène de théâtre, là où il n'y a pas de lumière, pas d'eau, et Paris qu'il a accepté de tenter. Et donc, l'idée, c'était effectivement, dans cette banlieue, de faire exister un vrai jardin vivant et d'y faire entendre des textes. Et donc, de semer cette graine dont parle Fabrice, à la fois dans la tête des enfants, mais aussi des adultes qui sont là et qui sont coupés du paysage, ou en tout cas, qui sont dans un paysage urbain, comme on en parlait hier, mais pas dans la nature. Et le pari, donc, s'est fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une forêt de bambous, un petit jardin à la française, une cascade dans laquelle un jardin que visitaient les enfants et les adultes la journée, et ensuite ils revenaient le soir pour écouter ces textes et voir les comédiens parler à la fois, par exemple, des Indiens Kachinawa, comme dans ce texte de André Marcel Danse, ou d'écouter un texte anglais sur la querelle des jardins à la française ou des jardins à l'anglaise, etc. Tous ces textes-là. Et en même temps, ça a transformé aussi le travail théâtral. C'est-à-dire que les comédiens et le metteur en scène, on devait se plier au rythme des plantes. C'est-à-dire que les plantes ont besoin d'un certain nombre d'heures de lumière, un certain nombre d'heures de noir. Donc on ne pouvait répéter que dans le moment où elles avaient besoin. Il fallait respecter leurs besoins. Donc le rythme des répétitions s'est fait au rythme des plantes. Et énormément de choses comme ça. Ensuite, il a fallu de l'eau, donc il a fallu un système de brumisation qui était réglé aussi en fonction de la lumière, du soleil. Et voilà, et je pense que le souci aussi, c'était que ces plantes ne soient pas perdues. Donc elles ont été achetées par la municipalité, puis replantées dans un rond-point qui porte le nom du spectacle, La Main Verte, et que les gens voient pousser et visitent régulièrement en se souvenant du spectacle.
Il me semble quand même que tu as employé le mot « représentation » et qu'on peut l'amener ailleurs. C'est-à-dire dans la tradition artistique de représenter le paysage. Ce qui s'est principalement fait par la peinture, et pas depuis toujours. Hein. Il y a toute l'histoire de la venue du paysage comme genre, et de son institution comme genre principal, d'une certaine manière, etc. etc. Et récemment, j'ai profité du fait qu'il y avait l'exposition très belle, d'ailleurs, au Petit Palais de Théodore Rousseau, donc le grand peintre de la forêt, au XIXe siècle, et j'y suis allé. avec un sentiment mêlé, sans a priori, mais en me méfiant quand même un petit peu de beaucoup de choses, d'ailleurs, parce qu'on est quand même dans un espace totalement muséifié, etc. Forcément. Après, quand on voit la vie qu'il a eue, Théodore Rousseau, etc., c'était un militant écologiste, d'une certaine manière, à son époque. Et le moyen qu'il avait trouvé, c'était cette forme de représentation-là, picturale, etc., assez remarquable, d'ailleurs, c'est-à-dire les plus grands défauts de la peinture du XIXe siècle, qui sont l'enflure, enfin, et tout ça, il les évite avec une élégance assez grande. Mais au-delà de son cas à lui, il y a tout ce qui s'est dit du paysage par sa représentation figurée dans l'histoire de la peinture, et il y a tout ce qui se dit du paysage par sa représentation figurée telle qu'elle est venue avec l'histoire de la photographie, avec les croisements entre histoire de la peinture, histoire de la photo, etc., puis l'autonomisation du photographique, etc., etc. Et je vois que dans les écoles de photo, parce que je fréquente régulièrement celle d'Arles, par exemple, le sujet nature ou paysage est devenu prédominant. En l'espace de... Ça fait 20 ans que j'y vais à peu près régulièrement. Et en l'espace de 20 ans, disons, les sujets les plus fréquents il y a 20 ans, c'était urbain, trash, tout ça, etc. Et aujourd'hui, alors même qu'on pourrait penser que là, tendanciellement, on irait vers ça, pas du tout. C'est plutôt vraiment le réflexe de la sensibilité et de l'angoisse aussi par rapport aux transformations climatiques induites des pratiques photographiques, j'allais dire philosophiques, photographiques vraiment spécifiques. Par exemple, il y avait la dernière fois, je suis allé à Arles, c'était un jeune garçon italien, originaire des Pouilles, fils de paysan d'ailleurs, et il a fait un travail absolument magnifique sur la maladie des oliviers là-bas. Vous savez que les oliviers des Pouilles sont en train de dégager, et avec des oliviers vieux de plusieurs centaines d'années, etc., qui dépérissent. Et il a fait une enquête photographique là-dessus, mais qui justement avec tout ce qui peut sortir la photographie du cadre strict du reportage, etc. Donc moi, je prends aussi représentation au sens bateau, si on peut dire, de cette représentation-là. Et en même temps, avec l'idée évidemment généreuse, humaniste, tout ça, que aussi c'est une manière de planter des graines, mais aussi avec le doute fondamental, c'est que ni la peinture de Théodore Rousseau, ni les photographies, par exemple, d'un très grand photographe de paysage, comme qui est mort récemment, Thibaut Cuisset, n'empêchent les pratiques de destruction. C'est ça qui est terrible, quoi. C'est-à-dire que tu peux planter et semer autant que tu veux, mais les bulldozers guettent.
Moi, le terme représentation, c'est un terme que je n'aime pas du tout, que j'emploie jamais, que j'essaye d'éviter quand j'aborde la littérature et les paysages en littérature. Je pense que la littérature que j'aime, c'est celle qui fait advenir, c'est celle qui fait jaillir, c'est celle qui ne cherche pas à imiter quelque chose qui serait de l'ordre du réel extérieur, mais qui va au contraire être dans un accompagnement de la poussée d'un paysage extérieur, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si Giono a envie de présenter sa contrée du côté de Manosque, des Alpes d'Haute, Provence, etc., il va inventer un style, une syntaxe, des intensités et des accents qui ne vont pas être de l'ordre de la représentation de ces montagnes. S'il y a mimétisme, c'est mimétisme de la fusis au sens où on l'entendait en grec, c'est-à-dire du jaillissement, du surgissement, et non pas de forme. Voilà.
Dans l'idée de Théodore Rousseau, en fait, évidemment, ça n'empêche pas les choses de ne pas se faire par rapport à la destruction des plantes et tout ça, mais en fait, en même temps, il a donné des images et des choses qui l'intéressent, donc il a ouvert aussi. Il a ouvert les choses. Il y a beaucoup d'artistes qui ouvrent des choses comme ça, par la représentation ou d'autres, tu vois, mais qui ouvrent des possibilités de questionnement pour les choses. Donc voilà. Puis c'est des sources qui créent à un moment donné, c'est des ateliers où avec. Puis tout d'un coup, ça, ben les gens sont. Ah tiens, ça existe. C'est comme la plage. La plage, on ne s'en occupait pas avant le 19e. Tout d'un coup, elle a apparu parce qu'un peintre a montré la plage, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut en permanence re-regarder le monde, un paysage. Ça change parce qu'on change de point de vue. Tout d'un coup, il est là, mais tout d'un coup, on ne regarde que le sol. Depuis quelque temps, je me suis très intéressé à ce qu'il y a dans le sous-sol, on en parlait tout à l'heure, et j'ai essayé de savoir qui étudiait les sols, les sous-sols. Il y a personne. Personne n'étudie les sous-sols. Ça s'appelle la pédologie. Et il y en a très, très peu. Et il y a un pédologue en France qui se trouve à Besançon qui étudie ça. Il y a vraiment très peu d'organismes. Et c'est une chose parce qu'en fait, on pense que le sol n'est pas vivant. On pense que le sol, c'est que des minéraux, les uns sur les autres. Le système est là, c'est génial, c'est explosif. Mais il y a tout le vivant qu'il a qui fait vivre tout ça. Ces plantes-là, c'est des champignons énormes qui font des kilomètres de long. Il y a des animaux qui suivent, qui vont très profondément dans le sol. Et des eaux, l'eau, elle est là partout, en fait. Enfin, tout ça, ça existe et c'est une chose qu'il faut révéler, parce qu'elle n'est pas connue.
Que de toute façon, aujourd'hui, enfin, les gens qui étudient ça du plus près, ils remettent complètement en cause la division entre organique et inorganique, ou biotique et abiotique. En fait, l'abiotique comme telle n'existe pas. Et de se représenter la roche comme un monde de mort, etc., c'est complètement faux. Et il y a la première preuve de ça, c'est les lichens. Hein. Et le devenir des lichens, c'est nous. Alors, c'est beaucoup plus tramé, complexe, etc.
Maxime Revert.
Je suis chercheur associé à l'IRIM de l'ENS de Lyon. Je suis philosophe. Et ma spécialité, en fait, je dirais que j'en ai deux, l'histoire des idées et l'éthique. Donc en histoire des idées, je suis spécialiste de Spinoza, qui a l'intérêt d'être un penseur des relations. Et en éthique, justement, je me suis intéressé à l'interaction, qui est la variante dynamique, circulaire, de ce que c'est qu'une relation. Et c'est dans le contexte de ma réflexion sur les interactions que j'en viens progressivement au paysage. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout un chemin direct, puisqu'en fait, j'en viens à l'éthique environnementale à partir d'une question existentielle qui paraît assez lointaine. C'est parler avec sa mère. C'est-à-dire que c'est à partir de la notion de maternité, ou plus exactement dans l'interaction entre les enfants et spécifiquement leur maman, que j'ai fini par interroger des interactions entre les humains et des choses, disons, plus grandes qu'eux. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement de non-humain, c'est vraiment d'autres types d'interactions. Et finalement, je crois que ce qui caractérise mon travail, c'est qu'on a très peu d'entités stables, que ce soit des humains ou des animaux ou des pierres, ou même une planète Terre. En revanche, là où, justement, on a tendance à se focaliser sur ces entités, je propose à chaque fois de déplacer le regard vers des interactions qui sont précisément identifiées, qui sont elles-mêmes en interaction entre elles, ce qui contribue à avoir un modèle particulièrement complexe et chaotique. Alors, ce sont deux mots qui sont des mots techniques. Complexe, ça signifie régi par une causalité circulaire, dans laquelle les effets ont des rétroactions sur leur cause. Donc ça, c'est très fondamental dans la théorie des systèmes et donc en écologie, pour penser justement comment un élément d'un système va impacter tout le reste de son système, peu importe ce qui est cause et effet. Tout ça est un grand cycle, en fait, de causalité. C'est ça, la théorie de la complexité. Encore une fois, on ne l'applique pas par hasard à la notion d'écologie. C'est dans l'autre sens qu'il faut le penser. C'est l'écologie, par définition, est une pensée systémique, donc une pensée complexe. Et puis l'autre pan dont je m'inspire, c'est la théorie du chaos, c'est-à-dire celle qui veut que les causalités ne soient pas articulées à des effets qui sont nécessaires et proportionnés. Le plus célèbre exemple de la théorie du chaos, c'est l'effet papillon. qui vient d'un article d'Edward Lorenz de 1972, où Lorenz pose la question « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il créer une tornade au Texas ?» La réponse est « Si l'on utilise des modèles aléatoires, on va s'apercevoir que au-delà même de l'aléatoire, c'est-à-dire de facteurs qui interviennent en cours de route, il y a certains phénomènes qui sont ce qu'on appelle sensibles à des conditions initiales. Et ces conditions initiales sont tellement fines qu'en fait le système est littéralement imprévisible. À nouveau, cette approche permet évidemment de décrire des phénomènes astrophysiques, c'était son origine avec Henri Poincaré, des phénomènes météo, on continue de travailler sur ces modèles-là aujourd'hui, mais ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on peut décrire des phénomènes humains qui jusqu'à présent étaient considérés d'un point de vue moralisateur, donc typiquement des conflits, par exemple, entre humains, et que la théorie du chaos est claire. Lorsqu'on vient de la théorie de la complexité, de la théorie du chaos, et qu'on déploie une éthique fondée sur l'interaction, le paysage n'apparaît plus du tout comme ce qui se trouve en face de soi, ou même dans ce qu'on parcourt ou qu'on traverse. C'est forcément autre chose. Et donc, tout l'intérêt, ça va être de considérer les conditions à partir desquelles naît un paysage, comment il se maintient, pour qui, par qui et avec quelles incertitudes.
Cet épisode est soutenu par l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, l'Atelier de Sèvres, Nantes Université et l'association Fieldwork Marfa.